Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette magnifique salle de l'Hôtel de Ville. Donc, dans cette conférence qui sera consacrée au millefeuille local, en réalité, très, très succinctement, on s'intéressera dans un premier temps aux questions de développement économique dans un environnement institutionnel qui est tout à fait particulier puisqu'il se caractérise par un morcellement de la carte communale et ensuite aussi par une superposition de différents échelons de gouvernement qui posent un certain nombre de points particuliers. Je souhaiterais vous présenter les différents intervenants. Je commencerai de la droite à la gauche, sans souci de préséance. Donc, M. Jacques Boucaud, qui est journaliste indépendant et correspondant pour Le Monde. M. David Kimmelfeld, qui est chef d'entreprise et vice-président du Grand Lyon. M. Lacroix, qui est président du Conseil économique et social de la région Rhône-Alpes. Thierry Moron, qui vient de Suisse et qui est directeur de la promotion économique du canton de Fribourg. Et je suis moi-même Thierry Madiès, je suis professeur d'économie à l'Université de Fribourg, ancien membre du Conseil d'analyse économique auprès de François Fillon. Je passe parole donc à M. Boucaud et ensuite nous déroulerons les interventions. Alors, ce que nous avons essayé de faire, c'est de laisser du temps pour la salle, mais je vous laisse...
C'est ça. Donc je vais essayer de tenir le rôle de modérateur pendant cette heure et demie de débat. Nous avons demandé à chacun des intervenants de consacrer 10-12 minutes, pas davantage. J'ai un outil bien pratique, c'est l'iPhone magique et il y a un chronomètre dessus, comme ça je ferai attention à ce qu'il ne dépasse pas le temps. Pourquoi ? Parce qu'on souhaite que vous, dans la salle, vous puissiez intervenir, poser les questions ou commenter les différentes interventions. Donc le premier, c'est Thierry Madiès, comme il l'a dit lui-même, il est l'économiste de service. Et donc je lui laisse la parole sur différentes questions qu'il a souhaité traiter.
Donc, mesdames, messieurs, les États et les collectivités locales, vous le savez bien, se livrent à une concurrence de plus en plus intense pour attirer des activités économiques sur leur territoire. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il s'inscrit dans un contexte particulier, un contexte où les grands pays européens peinent à combler leur retard par rapport aux États-Unis et au Japon en matière d'innovation, alors même qu'ils sont concurrencés sur leur base économique par les grands pays émergents que sont la Chine, l'Inde ou le Brésil. Vous savez que la Chine est devenue un des principaux exportateurs de produits à fort contenu technologique. Constat qu'il faut quand même nuancer, puisque vous savez aussi que les exportations de la Chine sont en réalité le fait pour plus de la moitié de filiales à capitaux étrangers. D'autre part, je soulignerai aussi que la Chine, si elle est un des principaux exportateurs de produits à fort contenu technologique, est encore distancée par les grands pays industrialisés sur le haut de gamme des produits à fort contenu technologique et même sur le haut de gamme des produits à contenu technologique intermédiaire. L'innovation est donc, vous le voyez bien, au cœur des questions de compétitivité et cela est d'autant plus important pour notre propos que l'innovation comme la compétitivité ont une dimension territoriale de plus en plus affirmée. L'objet de ma présentation s'articulera donc autour du triptyque compétitivité, innovation et concurrence territoriale. J'aborderai en particulier trois questions. Première question, quels sont les effets des investissements directs étrangers sur les territoires? Quels en sont les déterminants? Ont-ils un effet structurant sur les territoires? Deuxième question, l'innovation qu'on présente très souvent comme fortement mondialisée est en réalité un phénomène dont je vous montrerai qu'il est territorialisé. Et ceci a des conséquences importantes en matière de concurrence entre les régions et aussi sur le niveau d'inégalité entre régions. Troisième question que l'on abordera et qui s'inscrit dans cette problématique du millefeuille local, c'est que le contexte institutionnel français se caractérise par une concurrence entre collectivités territoriales qui est multiniveau, concurrence horizontale entre collectivités locales, communes par exemple, mais aussi une forme de concurrence verticale entre les différents échelons de gouvernement. Or, j'en viens à la première question. Premier point que je voulais souligner, c'est que le choix de localisation des investissements directs étrangers répond ou est le produit d'un processus hiérarchisé de décision. On a des facteurs comme les facteurs de demande ou de coût qui entrent en amont dans le processus de localisation, alors que d'autres comme la fiscalité entrent beaucoup plus en aval. L'économiste dispose maintenant, ou plutôt l'économètre dispose maintenant d'outils, ce qu'on appelle des logiques structurées. Ce sont des outils économétriques qui permettent précisément de modéliser les comportements de décision et de localisation des entreprises dans l'espace. Alors, quels sont les facteurs qui ressortent et qui sont importants? De façon générale, on voit que ce sont les facteurs d'accès au marché, ce qu'on appelle le potentiel de marché qui prime dans la localisation des investissements directs étrangers, avant même la variable coût. Alors, quand je parle de potentiel de marché, je me réfère non seulement à la taille du marché, mais aussi à son accessibilité, à sa densité. Pourquoi les coûts ne sont-ils pas aussi importants? Parce que quand on regarde ce qui se passe un petit peu en France, on s'aperçoit que les filiales de groupes étrangers qui opèrent en France font appel à une main-d'œuvre qui est plus qualifiée, mieux payée en moyenne que les entreprises françaises. Deuxième illustration, quand on s'intéresse aux investissements directs étrangers américains venant se localiser en France, on s'aperçoit qu'ils sont attirés par les départements français qui ont précisément le coût du travail le plus élevé, parce que derrière ce coût du travail plus élevé, vous avez aussi une productivité plus élevée. Troisième point souhaitais souligner, c'est que la présence de filiales étrangères renforce la probabilité pour un IDE étranger, donc un investissement direct étranger, de venir s'implanter dans un pays. Et cet investissement direct étranger a aussi des effets de spillover, c'est-à-dire des externalités positives sur les entreprises locales. Des études ont été réalisées qui montrent, par exemple, que la probabilité de voir une entreprise étrangère s'implanter dans un département français va augmenter avec la concentration d'entreprises étrangères de la même nationalité dans le département français en question. Donc ça, c'est un point qui est relativement important. Quand on regarde les investisseurs japonais, là aussi, et qu'on mène des études économétriques, on observe que les investisseurs japonais investissent à côté d'autres investisseurs, et souvent dans le même secteur. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un caractère potentiellement cumulatif des décisions de localisation des IDE, et donc aussi potentiellement le risque d'avoir une mauvaise image, si ça devait être le cas. Alors, un point aussi qui est important quand on s'intéresse à la localisation des investissements directs étrangers, c'est qu'on observe que l'agglomération des exportateurs sur un même site incite à exporter. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a des échanges d'informations, du partage d'expériences. Hein, vous avez par exemple l'association Cometic Valley, qui réunit les professionnels de la parfumerie et de la cosmétique dans des régions centre et autre Normandie, qui ont pour objectif d'échanger des informations pour permettre aux entreprises de partager une expérience en matière d'exportation. Autrement dit, les externalités d'agglomération sont très localisées. Et donc, les firmes exportatrices sont d'autant plus importantes et ont un impact d'autant plus important sur d'autres entreprises exportatrices qu'elles sont localisées les unes près des autres. Vous avez des études économétriques qui ont été réalisées qui nous montrent par exemple que l'impact marginal d'une entreprise exportatrice supplémentaire au sein d'une zone d'emploi permet d'augmenter la probabilité pour d'autres entreprises de commencer à exporter de 1 à 4%. Donc, ce n'est pas complètement négligeable, cette proximité avec d'autres entreprises exportatrices. Un point aussi qui est important, c'est celui de la fiscalité sur les sociétés. Là aussi, ce qu'on observe, c'est que la fiscalité sur les sociétés elle a un impact négatif et significatif sur les choix de localisation des IDE. En bref, si vous préférez, une augmentation d'un point du taux d'impôt sur les sociétés réduit de 3 à 4% les investissements directs étrangers entrants, ce qui est loin d'être négligeable. Et ce qui est important aussi de voir, c'est qu'il ne faut quand même pas surestimer le poids de la fiscalité, parce qu'on observe de la même manière que les dépenses publiques, notamment de recherche et de développement, et les dépenses publiques d'éducation ont elles aussi un impact très important sur la localisation des IDE. Or, on avait fait un calcul qui était assez amusant, c'est qu'on s'aperçoit qu'un pays qui aurait un point supplémentaire de taux d'impôt sur les sociétés pourrait compenser en termes d'investissement direct si vous préférez, cet handicap par rapport à d'autres pays qui auraient des taux d'IS, d'impôt sur les sociétés, plus faibles, en augmentant ces taux de recherche et de développement d'environ 3%, et ça maintiendrait, par exemple, le montant des investissements directs américains entrant en France. Donc il y a ce trade-off, si vous préférez. Évidemment, la fiscalité a un impact négatif, mais qui peut être plus que compensé par certaines dépenses publiques. Ceci s'observe au niveau local. Pour revenir au niveau local, effectivement, on observe, par exemple, il y a des études qui ont été menées en Suisse, qui sont tout à fait intéressantes, que quand on regarde au niveau micro-local déterminant la localisation des investissements directs étrangers et des activités économiques en général, c'est plutôt la fiscalité sur le revenu des dirigeants d'entreprises, et on le comprend bien, pour les petites et moyennes entreprises qui comptent, plus que la fiscalité sur les sociétés, puisque vous savez qu'en Suisse, une partie du taux d'IS est additionnelle. Le dernier point que je voulais souligner, c'est que très souvent, on craint la concurrence fiscale. On dit, oui, si il y a de la concurrence fiscale, on va aller vers une stratégie de moins 10 ans fiscale. Mais en réalité, on s'aperçoit que si vous avez une agglomération d'activités économiques dans l'espace, dans une zone d'emploi ou dans une région donnée, eh ben, cela constitue une barrière à la sortie des entreprises et on peut maintenir des taux d'imposition plus élevés. En bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que souvent, intuitivement, on a l'idée que des bases imposables, par exemple de taxes professionnelles fortes, ça conduit à des taux de taxes professionnelles plus faibles, mais en même temps, on s'aperçoit que ce n'est pas nécessairement le cas si cette concentration de bases imposables est le fruit d'un cluster ou d'externalités positives liées à la proximité d'un grand nombre d'entreprises entre elles. Ben, on s'aperçoit que la collectivité en question pourra maintenir des taux d'imposition élevés sans craindre une fuite de base imposable. J'en viens à ma deuxième question très rapidement sur l'innovation, puisque je traite de ce triptyque entre investissement direct étranger, attractivité, compétitivité, innovation et concurrence territoriale. L'innovation est, contrairement à ce qu'on imagine souvent, un phénomène qui est très fortement concentré dans l'espace. L'ensemble des études nous le montrent. Si vous préférez, les activités innovantes, la production de brevets, la recherche et développement est plus concentrée dans l'espace que le PIB ou encore que la population. J'avais quelques documents que j'aurais pu vous montrer qui sont complètement à la fin, mais je vous les montrerai moi-même tout à l'heure. Ça, c'est un point qui est important. Alors, comment on mesure le caractère localisé de l'innovation? On peut utiliser les brevets, ceux qui citent et ceux qui sont cités comme des marqueurs des externalités de connaissances. On peut utiliser les dépenses de recherche et développement, on peut utiliser les copublications. Tous ces indicateurs nous montrent une forte polarisation de l'activité d'innovation dans l'espace. Et évidemment, cela va avoir des conséquences que je vais aborder dans un instant. Qu'est-ce qu'on observe en France? Premièrement, on observe que les externalités de connaissances ne dépassent pas la frontière d'un département. Si on avait disposé de données suffisamment fines au niveau des agglomérations, on aurait vu que les externalités de connaissances ne dépasseraient pas finalement les frontières d'agglomération. Or, intuitivement, on comprend bien pourquoi l'innovation, surtout en amont, peut être localisée. Parce que souvent, elle dépend et elle nécessite des face-à-face, surtout quand l'information est tacite. Évidemment, quand l'information devient plus standardisée dans les phases aval de l'innovation, la distance géographique compte moins. Mais ce qu'on observe en France, c'est une polarisation très forte au sein des agglomérations et des départements. Deuxième point qu'on observe en France, c'est que la recherche privée a un impact 3 fois plus élevé sur l'innovation que la recherche publique. Troisième point, c'est que les petites entreprises en France ne captent pas suffisamment les retombées de la recherche publique. Enfin, quatrième point qui est très ennuyeux, c'est que la recherche publique en France, elle n'est ni localisée à côté de la recherche privée, et elle n'est ni influencée par la recherche privée, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis. On a ici des spécialistes des pôles de compétitivité qui nous montreront évidemment que une façon de dépasser ce dilemme, c'est peut-être ces fameux pôles de compétitivité. Dernier point que je voulais aborder sur les questions d'innovation, c'est qu'effectivement, si l'innovation est très fortement polarisée, ça a des conséquences très importantes. C'est juste un petit peu avant, pardon. Ceci a des conséquences très, très importantes sur la géographie. Autrement dit, ça veut dire que si on veut faire de la croissance, il faut qu'on accepte des inégalités régionales. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on observe dans les pays européens? On observe une convergence du revenu par tête des pays européens, mais qui s'accompagne d'une augmentation des inégalités régionales au sein même des pays européens. Alors, dans le cas de la France, il faut un tout petit peu nuancer ceci. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une double géographie, une géographie de la production et une géographie du revenu. Autrement dit, ce ne sont pas les grandes agglomérations et la région Île-de-France qui ont tiré la croissance ces 10 ou 15 dernières années. En réalité, ce sont des départements, entre guillemets, périphériques. N'y voyez aucune connotation dépréciative. Mais il faut faire très attention. Hein. On veut de la croissance qui est tirée par l'innovation. L'innovation est polarisée, donc ça veut dire qu'il faut accepter des inégalités régionales. Ça va complètement à l'encontre, évidemment, des politiques traditionnelles d'aménagement du territoire. Je termine ma présentation à travers voilà, la troisième question que je voulais vous poser et qui est plus directement liée à la question du millefeuille local. La France, hein, je vous l'ai dit, se caractérise par un morcellement de la carte administrative communale avec un emboîtement de collectivités appartenant à des échelons de gouvernement différents, et cela conduit à des comportements stratégiques très importants dans la fixation des taux d'imposition des collectivités locales, notamment taxes professionnelles, taxes d'habitation, taxes foncières. Mais aussi, ceci va avoir des effets sur les dépenses publiques. Alors, pour essayer de voir les comportements stratégiques qui résulte de ce morcellement de la carte administrative communale et aussi des interactions verticales entre différents échelons de gouvernement, les économistes estiment ce qu'on appelle des fonctions de réaction fiscale. Et sur le plan économétrique, on utilise les outils dits de l'économétrie spatiale. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe des comportements mimétiques dans la fixation des taux d'imposition de la taxe professionnelle et des dépenses publiques d'investissement au niveau communal. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que si les communes voisines augmentent leur taux d'imposition sur la taxe professionnelle, dont vous savez effectivement que depuis 1er janvier 2010, je ne devrais plus la nommer de cette façon, on s'aperçoit que les communes voisines font de même. Donc il y a des vrais comportements stratégiques. Et ce qu'on observe aussi, c'est un cycle électoral pour les dépenses publiques d'investissement communal. Autrement dit, 2 ans avant, les dépenses publiques d'investissement augmentent. Donc des comportements stratégiques sur les taux d'imposition, essentiellement la taxe professionnelle, mais aussi sur les dépenses publiques, mais les dépenses publiques d'investissement. Enfin, la question qui se pose, c'est, d'accord, on observe des comportements stratégiques, des comportements de mimétisme qui portent sur la fiscalité, essentiellement la taxe professionnelle et les dépenses d'investissement. Mais c'est dû à quoi ça ? Ça peut être dû à la concurrence fiscale, c'est-à-dire à la mobilité des bases, mais ça peut être dû aussi à ce qu'on appelle la concurrence par comparaison. C'est-à-dire que les électeurs sont imparfaitement informés sur la qualité de leurs élus, et donc vous regardez un petit peu ce qui se fait. Et c'est d'ailleurs un des outils qui font que la décentralisation et l'autonomie budgétaire peuvent conduire à expérimenter les bonnes pratiques. Dernier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que je vous ai parlé d'interaction horizontale, de concurrence fiscale, mais il existe aussi une concurrence verticale. Un peu comme ce qu'on appelle la tragédie des communs. La tragédie des communs, c'est quoi ? La tragédie des communs, c'est par exemple le fait que vous avez une rente halieutique, une ressource naturelle qui va être prélevée par plusieurs, on va dire, pêcheurs qui vont agir de façon non coopérative. Notre base de taxes professionnelles, qui est taxée par plusieurs échelons de gouvernement, c'est le même principe. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on montre ? La théorie économique montre qu'on a un problème de double marge, comme en économie industrielle, c'est-à-dire que quand vous avez une ressource commune, elle va être surexploitée, c'est-à-dire surimposée. Et on a mené des études en France sur ces questions. On montre par exemple qu'une augmentation de 10% du taux départemental de taxes professionnelles conduit à une augmentation de 2% du taux communal en moyenne. On montre aussi qu'une augmentation de 10% du taux communal moyen dans un département conduit le département lui-même à augmenter de 4% le taux départemental. Donc vous avez des effets d'entraînement des taux qui conduisent, si vous préférez, à une augmentation de ces taux. Or, est-ce que c'est de l'illusion fiscale ? On peut en discuter. Et il y a un point qui intéressera peut-être ici ceux qui s'intéressent à l'intercommunalité, c'est que dans le cas de la fiscalité additionnelle, on s'aperçoit qu'une augmentation de 10% du taux intercommunal conduit à une baisse à peine de 1% du taux communal, ce qui fait que le taux agrégé, en réalité, il augmente. Voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion, en 2 mots, les 2 points que l'on pourra aborder peut-être dans la discussion, c'est la question de la réforme territoriale, puisque je vous ai dit qu'elle pouvait être source d'inefficacité, concurrence fiscale, sauf que certains considèrent qu'elle peut discipliner aussi les gouvernements. Et en même temps, on pourra se poser la question peut-être des pôles de compétitivité. J'ai terminé, j'ai sans doute dépassé mon temps, je suis désolé. Vous voyez apparaître juste en 20 secondes C'est ce qu'on appelle une courbe de Lorentz qui permet de mesurer la concentration, qui permet de mesurer la concentration de certains indicateurs. Plus vous éloignez de la première bisectrice, de la diagonale si vous préférez, plus ça signifie que l'indicateur en question est concentré. Ça a été fait dans un rapport qu'on a fait pour le Conseil d'analyse économique sur l'ensemble des régions européennes. Qu'est-ce que vous voyez ? Que les dépôts de brevets comme mesure latente de l'innovation sont beaucoup plus concentrés, hein, même si c'est un indicateur très succinct et très grossier d'innovation, que la production et la population. Voilà, je m'arrête là.
Merci Thierry Madiès. David Kimmelfeld, David Kimmelfeld qui va intervenir maintenant est chef d'une entreprise dans les transports maritimes aériens, mais il est aussi vice-président du Grand Lyon en charge des questions économiques. Alors bien sûr, on l'attend beaucoup sur la concurrence entre toutes ces collectivités économiques, de la région jusqu'aux communes ou à la métropole. David Kimmelfeld, quels sont les instruments qui sont à la disposition des régions et des différentes collectivités qui se mènent une concurrence souvent acharnée pour faire venir des entreprises?
Bien, merci. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Vous avez beaucoup parlé, Thierry Madiès a beaucoup parlé de mimétisme. Je vais tenter de ne pas faire de mimétisme avec Thierry Madiès, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques parce que entre un exposé d'un économiste et l'exposé d'un chef d'entreprise et d'un représentant d'une collectivité territoriale, il y a souvent quelques différences d'appréciation. C'est d'ailleurs l'intérêt aujourd'hui de ce travail que l'on mène en commun. Je vais le faire très rapidement, parce que je crois que l'intérêt aussi, c'est qu'on puisse ensuite dialoguer avec la salle. Alors, d'abord, sur l'intitulé du débat que nous avons sur le millefeuille, moi, je considère que ce millefeuille est quand même un peu plus modeste qu'un millefeuille en matière de développement économique. Moi, j'ai une vision en disant que sur un territoire comme sur le territoire du Grand Lyon de la région, il n'y a pas vraiment un millefeuille. Il y a, en matière de compétences développement économique, il y a une région Rhône-Alpes, il y a un territoire du Grand Lyon, il y a une ville de Lyon et les villes, en règle générale, qui ont gardé quelques compétences, mais très minimes, hein, en matière de commerce et d'artisanat. Sur le développement économique, on est vraiment sur le cœur entre la région, le Grand Lyon, et puis bien évidemment l'État. Un conseil général qui, pour le coup, en tout cas sur le Rhône, c'est l'éclairage que nous avons ici, a, en matière de développement économique, un rôle très, très mineur. Il participe notamment à l'agence de développement, mais sinon son activité en matière de développement économique est très, très modeste. Donc d'un millefeuille, déjà, on est sur quelques feuilles, pour déjà dresser un peu le tableau. Deuxième point, moi je suis, et je répondrai après sur les leviers, un fervent partisan de la clause de compétence générale, et notamment parce que je trouve que le financement croisé sur un certain nombre d'actions, et notamment en matière de développement économique, n'est pas une déperdition en ligne, mais plutôt une garantie de la qualité des actions et une garantie de pouvoir croiser avec nos partenaires. Et c'est ce que nous vivons, notamment avec la région. Alors, je me tourne vers M. Lacroix, parce qu'il vous expliquera le rôle qu'il joue, lui, à la région, à travers le Conseil économique et social de la région Rhône-Alpes. Les actions en matière de développement économique sont extrêmement coordonnées et en synergie avec la région Rhône-Alpes. Et moi, j'y vois un intérêt. C'est une double expertise sur les actions qu'on peut mener en matière de développement économique. Et puis, une évaluation qui est bien meilleure, puisqu'elle est double. Et le risque qui n'existe pas, de fait, d'un lien unique entre une collectivité et une organisation ou une action. Ça, c'était sur la partie, on va dire, intitulée de l'atelier. Ensuite, sur c'est quoi les leviers dont bénéficie une collectivité ou les collectivités territoriales pour attirer des entreprises ou les maintenir, parce que notre souci aujourd'hui en matière de développement économique, et puis la crise a amplifié ce souci, c'est bien sûr d'aller attirer dans un langage un peu barbare, des entreprises exogènes, mais c'est aussi de maintenir, et donc de manière endogène, de pouvoir maintenir les entreprises qui sont là, y compris d'ailleurs quand elles ont de la croissance et qu'elles ne soient pas tentées d'aller voir ailleurs si l'herbe est beaucoup plus verte. Sans mauvais jeu de mots, pour nos équilibres politiques, la région Rhône-Alpes notamment, M. Lacroix sait de quoi je veux parler, en particulier en matière de développement économique, où on trouve quelquefois l'herbe trop verte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les entreprises? Premièrement, je crois qu'il y a quelque chose peut-être d'un peu décalé. C'est d'abord, il faut une région et il faut une ville attractive. Parce que certes, vous avez fait un exposé qui a un système de modélisation où apparaît peu finalement comment on attire des entreprises, mais apparaît très bien comment on attire des entreprises, mais pas tellement comment on attire des talents. Et je crois que les entreprises qui viennent, elles viennent pour un certain nombre de raisons que vous avez évoquées, mais elles viennent aussi avec des talents, avec des salariés, avec des familles. Ça, c'est pour les entreprises exogènes. Et derrière, il faut qu'on ait une ville attractive. Une ville attractive, ben, c'est une ville où on a une qualité d'espace public, où on règle un certain nombre de problèmes en matière de logement, en matière d'éducation, en matière d'offres culturelles, en matière d'emploi, y compris pour les conjoints ou les conjointes qui viennent sur le territoire. C'est un des travaux importants que fait l'ADERLI, l'agence de développement sur le territoire du Grand Lyon, c'est s'occuper notamment d'essayer d'accompagner les familles sur l'éducation des enfants, mais aussi sur l'emploi du conjoint ou de la conjointe qui rejoint finalement le territoire du Grand Lyon. C'est l'ensemble de ces choses que vont regarder les entreprises et les talents et les salariés de ces entreprises-là. Et puis deuxième point, il faut bien évidemment bien communiquer sur qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on représente. Et c'est pour ça que le territoire du Grand Lyon met un point important sur ce qu'on appelle le marketing territorial, avec notamment une marque que vous avez pu voir ici ou là qui s'appelle Only Lyon, qui nous permet de communiquer à l'extérieur, qui nous permet finalement de vanter le territoire. Et comme on vante dans une entreprise ses atouts, il faut pouvoir les vanter aussi aujourd'hui dans une dynamique de concurrence sur l'ensemble du territoire, en particulier européen. Il faut aussi, je crois, un des atouts majeurs, c'est d'être lisible finalement sur la carte des spécialisations, et les pôles de compétitivité en cela nous ont aidés à structurer clairement les filières sur notre territoire. Aujourd'hui, sur le territoire du Grand Lyon, on a 5 pôles de compétitivité, un pôle qui est Lyon Biopôle autour des sciences du vivant, santé, un pôle Accéléra autour de chimie, clean tech, chimie environnementale, un pôle ELUTB qui est le pôle système de transport passagers et marchandises, un pôle Tectera qui est un pôle autour du textile technique, et puis un pôle Imaginov autour de la filière audiovisuelle et jeux vidéo. Et c'est clair que l'installation et le développement de ces pôles de compétitivité ont permis d'attirer un certain nombre d'entreprises, et je pense en particulier à Lyon Biopôle, je pense aussi à certains centres de recherche à travers Accéléra, et les entreprises qui sont venues ici sont venues parce qu'il y avait ces pôles de compétitivité qui ont joué une véritable attractivité. Au passage d'ailleurs, quand dans la présentation que vous avez faite, il est dit la recherche publique, la recherche privée, vous l'avez dit aussi, je crois que on est en train de changer, à mon avis, de manière assez modeste, d'échelle là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la frontière entre recherche publique et recherche privée n'est plus aussi ferme qu'elle n'était. Et il y a de vraies collaborations, et on le voit au quotidien. Avec la région Rhône-Alpes, on finance à travers les FUI, les pôles de compétitivité, bon nombre de projets recherche et développement qui maillent des laboratoires de recherche privés avec des laboratoires de recherche publique, et en même temps, de la même façon, une dynamique aussi sur les PME. Je pense notamment ici en région Rhône-Alpes sur deux pôles de compétitivité, en particulier Imaginov ou Tectera, où là on est plutôt sur un tissu de PME et de PMI qui bénéficie finalement de ces projets recherche et développement, et donc qui se raccroche au pôle de compétitivité. Un troisième point aussi sur un levier, c'est une gouvernance économique partenariale. Et je crois que c'est peut-être une des originalités que nous avons dans cette région. C'est que depuis, d'ailleurs, ça a été amplifié, je pense, par le président du Grand Lyon, Gérard Collomb, mais ça avait été initié par Raymond Barre quand il était maire et président du Grand Lyon. C'est de dire, pour faire du développement économique sur un territoire, on ne peut pas le faire les collectivités locales isolées, et on ne peut pas le faire la sphère privée toute seule. Il faut pouvoir se parler. Et aujourd'hui, on a à l'échelle du Grand Lyon un système qui s'appelle Grand Lyon l'esprit d'entreprise, qui est finalement ni plus ni moins, qu'on pourrait dire, un comité de pilotage de développement économique qui rassemble la collectivité Grand Lyon, mais qui rassemble aussi les organisations syndicales MEDEF, CGPME, les chambres consulaires, métiers, commerce et industrie, et qui rassemble aussi le PRES, donc pôle de recherche et d'enseignement supérieur, Université Lyon-Saint-Etienne. Et ce qui nous permet de développer l'ensemble des projets et de partager l'ensemble des projets en matière de développement économique sur l'ensemble du territoire du Grand Lyon. Derrière, c'est un certain nombre de dispositifs qui vont favoriser, qui vont jouer des leviers, je suis encore dans les temps, qui vont jouer des leviers pour accompagner les implantations, les créations et accompagner la croissance. Petit 1, une politique foncière volontariste. En clair, si on veut accueillir des entreprises sur le territoire, il faut qu'elles puissent s'installer. Et si on veut qu'elles s'installent, il faut du foncier disponible. Et le constat que nous avons fait depuis longtemps, c'est que si on laisse faire tout simplement le marché, ce n'est pas suffisant. Le Grand Lyon fait de la réserve foncière. Fait de la réserve foncière, non pas pour spéculer, mais pour pouvoir être en capacité ensuite de remettre cette réserve foncière dans les mains du privé, d'opérateurs, d'aménageurs, pour pouvoir y accueillir des entreprises. Ça veut dire création d'un certain nombre de zones industrielles, ça veut dire réaménagement, requalification de zones industrielles. Si on veut des entreprises sur un territoire, c'est un peu comme les habitants et les habitantes, il faut qu'elles aient un quartier qui soit équilibré, il faut qu'elles aient donc des zones d'activité, des zones industrielles qui soient équilibrées, qui amènent du service aux entreprises et du service aux salariés. Et là, la collectivité joue tout son rôle en lien avec les partenaires privés. Il faut une politique qui favorise la création. On a sur le territoire du Grand Lyon un dispositif qui s'appelle Lyon Ville de l'Entrepreneuriat, qui est décliné à l'échelle de la région Rhône-Alpes à travers un système qui s'appelle Créalis, qui est un système qui structure une cinquantaine d'organisations qui accompagnent les créateurs et les créatrices d'entreprises sur l'ensemble du dispositif, y compris sur la post-création à 3 ans, à 5 ans après la création, et qui est maillé sur l'ensemble du territoire du Grand Lyon, qui est en capacité de renseigner les créateurs et créatrices d'entreprises, de les accompagner. On a un certain nombre de dispositifs, dont un dispositif dont M. Lacroix connaît bien, mais là avec sa casquette de chef d'entreprise qui est partenaire pour entreprendre, qui est ni plus ni moins que l'idée de dire de jeunes pousses, de jeunes entreprises, comment est-ce qu'on les met en lien et comment est-ce qu'on ouvre et comment est-ce que les grands comptes acceptent d'ouvrir finalement leur capacité d'achat à ces jeunes pousses. Donc c'est un dispositif qu'on accompagne avec la Chambre de commerce. On a bien sûr une politique très volontariste pour soutenir la structuration des filières et des pôles de compétitivité, on en a parlé. Accompagner aussi l'innovation, je crois que c'est important d'accompagner l'innovation, d'où le sens du plan campus, le soutien aux universités, le soutien aux incubateurs. Et puis, il faut aussi, et c'est là où les choses se maillent très bien, et j'en reviens au début, au millefeuille, l'intérêt d'un lien étroit entre la région Rhône-Alpes et le territoire du Grand Lyon, à travers ce qu'on appelle un contrat d'agglomération, qui décline certaines actions en matière de développement économique, c'est que la région Rhône-Alpes est un peu plus loin du territoire, parce qu'elle n'a pas que le territoire du Grand Lyon à s'occuper. Le territoire du Grand Lyon a capacité à faire de la proximité, et ce qu'il faut faire aussi avec les entreprises, c'est certes quelquefois de beaux discours, mais il faut aussi surtout agir, et agir localement en matière de proximité. On a un réseau d'animateurs territoriaux qui est disséminé sur l'ensemble du territoire du Grand Lyon et qui est en capacité de discuter avec les entreprises au quotidien, des problèmes quotidiens des entreprises, que les entreprises ont des problèmes importants, qu'elles ont aussi des problèmes quotidiens qu'il faut régler au jour le jour, et c'est aussi un des sens de l'action du territoire du Grand Lyon. Voilà ce que je voulais dans une présentation, je suis resté dans les...
Oui, c'est parfait. Je voulais quand même vous poser une question, parce que tout ça est très beau, mais est-ce que, je pense que le Grand Lyon, la communauté urbaine de Lyon, a des concurrents, alors quels sont-ils ?
D'abord, je crois que la concurrence en matière de développement économique, vous l'avez évoqué, c'est certes les pays, mais je considère aussi que c'est surtout les villes. D'abord parce que, bien évidemment, il y a aujourd'hui, on le voit bien en matière démographique, une concentration dans les villes. Et aujourd'hui, quand on rencontre des entreprises et quand on mène des actions avec l'ADERLI, notamment sur des missions à l'étranger, on ne nous parle pas, on ne nous dit pas « je vais aller m'installer en Allemagne » ou « je vais aller m'installer en Belgique » ou « je vais aller m'installer en Espagne ». On dit « je vais aller à Bruxelles, je vais aller à Barcelone, je vais aller à Milan ». Je vais aller à Francfort. Donc il y a une concurrence des villes. Donc la concurrence pour nous, c'est les villes. C'est avant tout quand même une concurrence aujourd'hui européenne. Et c'est là où je pense que Lyon et le Grand Lyon ont franchi une étape. On va dire qu'il y a quelques années en arrière, notre concurrence en matière de développement économique, c'était plutôt Marseille, Lille, Paris. Aujourd'hui, on est plutôt sur une concurrence européenne. Et c'est là où les choses se jouent, à mon avis, pour attirer un certain nombre de centres de recherche. On a des centres de recherche qui sont venus sur le territoire du Grand Lyon à travers le pôle Accéléra, notamment autour de Rodia, par exemple. La question, c'était Lyon ou Francfort. C'était pas Lyon ou Aix-en-Provence, même si, je m'en excuse pour les habitants d'Aix-en-Provence qui sont... présent là, qui est une très belle ville, mais qui ne jouait pas dans la concurrence sur cette dynamique-là.
Bien, merci Thierry. David Kinelfeld. On va aller voir ce qui se passe chez nos voisins suisses avec Thierry Moron. Thierry Moron, donc, est depuis près de 10 ans maintenant directeur de la promotion économique du canton de Fribourg. Et je vous poserai la même question qu'à David Kinelfeld. Quels sont les leviers dont disposent les cantons et plus particulièrement celui de Fribourg pour attirer des entreprises et attirer aussi des talents?
Merci, oui, c'est très volontiers que je vais répondre à cette question, mais peut-être pour le dire, le millefeuille social chez nous se limite à 3 couches essentiellement, avec une couche du milieu qui est très importante, qui est celle des cantons en fait. Alors, pour expliquer ceci, en Suisse, l'autonomie des cantons est très importante et pour le comprendre, il faut comprendre la répartition de ces trois couches, c'est-à-dire entre la Confédération, les cantons et les communes. La Confédération, en fait, c'est ce que vous voyez. La Confédération, c'est-à-dire le pouvoir central, détient son autorité des attributions des cantons. En d'autres termes, ce sont les cantons qui délèguent les compétences qu'ils jugent nécessaires au niveau supérieur et pas l'inverse. Et ça, c'est ancré dans notre Constitution. Et d'ailleurs, dans la Constitution, c'est dans les premiers articles, l'article 3 dit « Les cantons sont souverains, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral ». Et Alexis de Tocqueville, en 1836, déjà, il disait « Il y a des cantons, il n'y a pas de Suisse ». Alors, c'est un peu exagéré aujourd'hui de dire ceci, parce que le pouvoir central s'est renforcé au cours des décennies, mais il n'en meurt pas moins que le pouvoir cantonal reste le plus important. Et pourquoi je vous présente ceci ? C'est pour bien montrer que cette autonomie, et aussi en matière fiscale, et j'y reviendrai, est très importante. Alors, si les affaires étrangères, les affaires militaires, les assurances sociales sont de la compétence de la Confédération, l'essentiel de ce qui concerne l'éducation, la fiscalité, par exemple la fixation des taux, ou bien l'aménagement du territoire, la construction des routes, la gestion des hôpitaux, tous ces domaines sont de la compétence des cantons, et voire parfois des communes. Alors, pour répondre à votre question de manière plus précise, quels sont les leviers qu'actionnent les cantons pour favoriser à la fois la croissance et dans cette croissance attirer de nouvelles entreprises, eh bien je dirais qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau des mesures directes. Les mesures directes, c'est justement la fiscalité et les aides directes aux entreprises, des aides financières. Et puis, il y a des mesures indirectes. Les mesures indirectes, c'est la formation. Il y a une concurrence aussi qui s'établit là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements d'un canton à l'autre en fonction du système de formation, mais surtout au niveau primaire et secondaire, pas au niveau universitaire. Bien sûr, au travers des infrastructures, il y a également une concurrence. Et puis aussi au niveau de ce qu'on peut appeler la superstructure, c'est-à-dire que les cantons contribuent à une certaine image de la Suisse, c'est-à-dire la question de la stabilité politique ou de la paix du travail, sont au niveau cantonal aussi leur importance. Et puis, un aspect important, c'est également le niveau d'endettement. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence inverse, on pourrait dire, c'est-à-dire que les cantons essayent d'avoir un niveau d'endettement aussi faible que possible pour avoir une autonomie supplémentaire. Alors, peut-être si on peut passer le slide suivant. Voilà, au fond, ces différentes caractéristiques correspondent aussi à ce qu'attendent les entreprises. Et on voit sur ce schéma qu'au fond, ce que demandent, et il y a plusieurs cabinets qui font ce genre d'enquête auprès des entreprises, la fiscalité reste extrêmement importante. Là, elle est tout en haut de la demande des entreprises, mais dans le trio de tête, il y a aussi la qualité de l'emploi, la qualité de la force de travail, la stabilité politique, et puis, comme disait M. Kimfeld, aussi des questions telles que la qualité de vie, bien sûr, sont très importantes. Alors, pour revenir peut-être sur deux, trois points, notamment sur la question de la fiscalité, et si on peut passer le slide suivant. Alors, la fiscalité en Suisse s'est prélevée à trois niveaux. Et vous voyez, ça c'est l'exemple de mon canton, le canton de Fribourg. Et puis, il y a le niveau fixe fédéral qui est partout le même. Et chaque canton, et je montrerai des différences, impose aussi et se fait concurrence, et puis aussi au niveau communal. Ce qui fait que dans un même canton, vous pouvez avoir des grosses différences d'une commune à l'autre. Alors, là, on ne va pas venir sur la question du taux net, taux brut, c'est que l'impôt étant déductible, le taux qu'il faut retenir, c'est le taux net. Si on voit maintenant la conséquence sur le slide suivant, vous voyez qu'il peut y avoir de très grandes différences d'un canton à l'autre. En clair, pour prendre, là c'est sur les personnes physiques, c'est l'impôt sur les personnes physiques. Et si on prend entre les deux extrêmes, c'est-à-dire entre Zoug et Neuchâtel, j'ai mis un petit exemple chiffré, en euros, pour un salaire revenu de 125 000 francs, eh bien, vous avez une différence d'un facteur de 1 à 3, c'est-à-dire que vous pouvez payer à Zoug 4 200 euros d'impôt, alors que vous payerez 12 900 à Neuchâtel. Donc vous voyez, cette concurrence est réelle. Et elle s'exerce sur le slide suivant. On le voit également au niveau des entreprises, des grosses différences avec un facteur de 1 à 2. Alors, vous avez peut-être entendu qu'en Suisse, cette concurrence crée un certain nombre de problèmes parce que chaque canton, il n'y a pas une année où il n'y a pas un canton qui prend une initiative pour réduire encore les impôts, à tel point que le Parti socialiste a lancé ce qu'on appelle chez nous une initiative populaire et on va se prononcer en votation à la fin de ce mois. Vous savez qu'on va très souvent en votation en Suisse, pour savoir si on accepte cette initiative. Je vous lis l'intitulé, ça c'est les documents officiels qu'on reçoit pour la votation. C'est donc une initiative pour des impôts équitables, stop aux abus de la concurrence fiscale. Donc cette initiative vise justement à réduire cette concurrence parce qu'elle est jugée, notamment par le Parti socialiste négative. Mais il faut savoir que tant le Conseil fédéral, c'est-à-dire le pouvoir central, que les chambres proposent de rejeter cette initiative parce qu'elle atteint trop à l'autonomie cantonale. Donc c'est intéressant, on verra le résultat. Il semble que, et il y a plusieurs journaux qui interviennent également, notamment pour proposer de la rejeter au nom de l'autonomie cantonale, mais on verra bien le résultat à la fin de ce mois. Il semblerait qu'il y ait des possibilités qu'elle passe. Il faut savoir que c'est très rare en Suisse qu'une initiative passe. Il y a ce qu'on appelle de manière un peu endémique ce qu'on appelle des Neinsager, c'est-à-dire des gens qui systématiquement disent non à toute proposition de modification de la Constitution, parce qu'une initiative va modifier la Constitution, justement au nom de cette autonomie cantonale. Voilà. Alors, peut-être le tableau suivant vous montre aussi le deuxième niveau, donc la fiscalité, c'est un élément de concurrence important pour attirer des entreprises. Et un autre élément, c'est l'aide. Oui, ça, je voulais montrer là d'autres exemples pour les personnes morales, mais je ne vais peut-être pas m'étendre pour ne pas dépasser mon temps de parole. L'autre élément, c'est au niveau des aides directes, des aides financières pour attirer des sociétés. Je ne vais pas m'étendre, vous voyez, c'est tout en pis, mais simplement pour vous montrer que d'un canton à l'autre, les différences sont relativement importantes. Chaque canton choisit son domaine dans lequel il veut intervenir pour favoriser justement l'innovation, pour favoriser un type de société, notamment des clusters. Alors, je vous parle beaucoup de concurrence, il faut savoir tout de même que nous travaillons beaucoup ensemble aussi, par exemple au niveau de la Suisse occidentale. Tous nos cantons sont regroupés dans une association afin de faire une promotion commune à l'étranger, donc cette fameuse promotion exogène dont on a parlé. Mais il n'en meurt pas moins qu'au moment de l'acquisition, on reste concurrents puisqu'on est employés tous par des pouvoirs différents. La dernière slide que je voulais vous montrer, c'est que la question de la dette est extrêmement importante également. Vous voyez des grosses différences là également entre un canton comme le canton de Genève qui a une dette importante ou mon canton qui n'a pas de dette. On va passer le 8e exercice bénéficiaire. Donc on a une croissance grâce à quelque part. On n'est pas un des meilleurs cantons au niveau de la fiscalité. On se situe plutôt au milieu du... On est assez bon pour justement certaines personnes morales, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une croissance des entrées fiscales assez importante qui permet de nous... On est un canton, si vous voulez, rural plutôt pauvre d'origine. Donc, il y a un bon sens qui fait qu'un franc est un franc et ce qui fait qu'on est arrivé à une situation où on n'a pas d'endettement aujourd'hui, ce qui nous permet justement, tant au niveau de la formation, de l'éducation, d'avoir des moyens d'être actifs et de continuer notre croissance. Et je pourrais montrer aussi les schémas il y a des différences de taux de chômage dues à ça, on a le taux le plus faible de la Suisse occidentale, donc ça fait partie, je dirais, de cette politique. Merci.
Mais il y a une concurrence aussi qui peut s'exercer peut-être moins dans le canton de Fribourg que dans le canton de Genève, la concurrence justement avec le pays voisin, la France, ou le canton de Berne avec l'Allemagne. Comment vous activez...
Alors absolument, la concurrence, comme ça a été dit tout à l'heure...
Le Grand Lyon, par exemple, est peut-être... ou Rhône-Alpes, en tout cas, un concurrent pour le canton
Genève. Alors, je pense que par rapport à Genève, d'ailleurs, il y a des mouvements, on le sait, d'entreprises qui... Mais en général, c'est pour des activités différentes, en principe, c'est-à-dire les implantations d'entreprises. Il n'y a pas énormément... La plupart des sociétés françaises qui viennent en Suisse, c'est soit pour un marché international, pour être actif au niveau international, soit pour, bien sûr, le marché local, mais ça, ce n'est pas des grosses implantations. Mais c'est aussi pour des activités internationales, mais pas tellement de France. Nous, on a, par exemple, à Genève aussi, mais aussi à Fribourg, des implantations de sociétés américaines qui viennent pour le marché européen. Donc les questions que je montrais tout à l'heure de fiscalité et autres sont très importantes pour ce type d'implantation, notamment les quartiers généraux. On a eu récemment le numéro 1 mondial de l'ophtalmologie, et il ne faut pas se cacher, c'est clair que c'est pour une situation fiscale acceptable et jugée par cette entreprise bonne que cette société, elle a créé 250 emplois en 2 ans.
Voilà. Bien, merci Thierry Moron. Dernier...